Chalie m'était conté. Bonjour à toutes, bonjour à tous et tout mon respect à mes compagnons de route qui sont devant moi, fidèles dans le studio de Crépillon-Valois. Ça rime.
Ça rime, oui.
Eh bien, la dernière fois, nous avions quitté notre Hippolyte d'Est et le cardinal de Ferrat, l'abbé de Chalie. Nous l'avions quitté en 1562, je vous rappelle, que nous sommes au début des guerres de ce qu'on appellera les guerres de religion et que tout est tenté pour essayer évidemment de réconcilier deux oppositions majeures, celle de ce qu'on appellera les ligueurs, les ultra-catholiques si vous voulez, et de l'autre côté les protestants, enfin ceux qu'on appellera protestants, huguenots, les termes sont postérieurs à évidemment ces combats. Donc en 1562, je vous rappelle, c'est le colloque de Poissy, Hippolyte de d'Este est le représentant du pape. Et le pape n'est pas du tout content de la position d'Hippolyte lors de ce colloque de Poissy. Il va même déléguer un autre religieux pour le représenter, car il trouve que Hippolyte est trop clément vis-à-vis des réformés ou de la réforme. Et j'avais insisté sur le fait de dire que cette espèce de doute perpétuel, on le trouve même jusque dans l'entourage de la reine, de Catherine de Médicis, qui s'est senti accusé, donc obligé par la suite, à écrire une lettre à l'ambassadeur d'Espagne. Et j'ai le bonheur de pouvoir vous lire ce document. Donc elle rejette, dit-elle, les menteries. Alors évidemment, le vocabulaire a un petit peu changé par rapport à celui que nous utilisons.
Fake news. Donc,
voilà, elle rejette les menteries qu'on a dites de moi et la calomnie que l'on m'a donnée relative à une éventuelle conversion au protestantisme. Donc elle s'adresse à l'ambassadeur de France en Espagne, c'est Sébastien de Lobépine, évêque de Limoges, hein, et elle le charge de montrer sa lettre au roi Philippe II, au roi d'Espagne Philippe II, et au duc d'Albe. Voilà en quelques mots ce qu'elle lui dit. « Hardiment montrer cette lettre au duc d'Albe et au roi monsieur mon fils, car je ne voudrais pas qu'il pensât que j'eus menti. J'ai bien voulu que tous les seigneurs écrit au roi d'Espagne de façon que je souis pour le respect de la région, pour regard de menterie qu'on a dite de moi et la calomnie que l'on m'a donnée. L'on a menti car je n'ai pas changé ni en volonté ni en façon de vivre ma religion qu'il y a 43 ans que j'ai été baptisé. Je suis marié car ce mensonge dure trop longtemps pour ne s'en fâcher à la fin et principalement quand on le sait, la conscience nette. » Elle presse alors son ambassadeur de dire à la reine, sa fille, Élisabeth de Valois, que je ne serai jamais, et que je ne cela eût été auparavant, qu'une bonne chrétienne catholiquement et point menteuse ni dissimuleuse. Voilà, c'est un petit peu compliqué peut-être à comprendre, mais dans l'ensemble, on voit qu'effectivement, la reine est obligée de prouver qu'elle n'est pas protestante, pour vous dire évidemment la d'ubiquité qui existe à cette période. Cette période importante pour Hippolyte, parce que Hippolyte va devoir quitter la France, va devoir quitter le royaume. Est-ce que c'est Catherine de Médicis qui l'a poussé dehors? Difficile à dire. Elle ne l'a pas retenu, c'est probable. Quant à Hippolyte, lui, il est dans une situation bizarre, parce que très proche d'un des conseillers du roi, mais en même temps, il ne faut pas oublier que sa nièce a épousé François de Guise, c'est-à-dire un ultra-catholique. Donc il a une situation très curieuse, d'autant plus que sa belle-sœur, elle, est calviniste. René de France, qui a épousé donc, son frère, le duc de Ferrat, elle est calviniste. Elle s'est d'ailleurs fait mettre à la porte, n'est-ce pas, de Ferrat, et on lui indique le chemin de Montargis, qui est son château où elle demeura jusqu'à la fin de sa vie. Voilà, si vous voulez, dans quelle ambiance vont se terminer les ambassades d'Hippolyte en France et aussi, bien sûr, à Chalie. Alors, à propos de la présence maintenant d'Hippolyte en ce lieu, pendant très longtemps, on a pensé que après 1554, Hippolyte se désintéresse de Chalie, etc. Eh bien, pas du tout. Pas du tout, et il va se servir de Chalie, d'une part, pour des questions financières, ça lui rapporte quand même beaucoup, cet habit royal. Hein.
Oui.
Et puis, la deuxième raison, je dirais aussi économique, c'est que c'est un bel emplacement pour pouvoir inviter ses conseillers, pour pouvoir inviter un certain nombre de personnages très respectables qui vont profiter donc de Chali et pouvoir regarder évidemment la nature. Alors parmi ces gens qu'on va trouver à Chali, il y en a un dont j'ai retenu évidemment la présence. Il s'agit de Marc-Antoine Muret. En quoi ce personnage est-il intéressant ? Eh bien tout simplement parce que d'une part c'est la pierre angulaire de la Pléiade. La Pléiade, vous savez, ce sont les grands poètes de la Renaissance qui écrivent en français. Lui, Marc-Antoine Muret, écrit en latin. Mais il a été universellement admiré de son temps pour son érudition, pour son éloquence également. Alors, bien sûr, lui aussi a été victime de grandes difficultés quand il est à Toulouse. On l'oblige à quitter la France. Alors, pourquoi ? Alors, évidemment, à cette époque, souvent, c'est l'accusation de sodomie. C'est pratique.
Ah oui.
Qu'en est-il ? Je ne sais pas. J'y étais pas. Hein. En tous les cas, on se débarrasse de lui et il est obligé de quitter très, très rapidement le royaume sous peine de se retrouver évidemment dans des circonstances pénibles, voire même de mettre sa vie en jeu. Donc il va se réfugier en Italie, on va le voir. On l'accueille très bien d'ailleurs, on va l'accueillir un peu plus tard dans l'entourage d'Hippolyte, parce que c'est vraiment un intellectuel de talent doublé d'un poète. Il va se retrouver ensuite près du cardinal de Ferrare, je dirais à mi-temps. Le cardinal hésite véritablement de l'employer à plein temps, parce qu'il arrive aussi avec une réputation sulfureuse, pas l'oublier. Hein. Cela dit, il conserve, en tous les cas en Italie, il a conservé des relations particulières avec tout le monde intellectuel, comme on dirait de nos jours, et spécialement avec l'imprimeur qui est peut-être le plus connu de cette période, qui s'appelle Paul Manucci. Donc on va le voir, il commence comme orateur officiel d'abord du cardinal, ensuite il va se mettre au service de son neveu Louis d'Est, dont on reparlera, puisqu'à son tour il sera abbé de Chali. On va même le trouver au service des rois de France. On va s'en servir, à un moment donné, vous voyez que les choses changent vite, on va l'envoyer pour essayer de faire revenir Antoine de Bourbon, le roi de Navarre, au sein du catholicisme. Bon, on ne peut pas dire que cette ambassade ait été brillante, puisqu'on sait qu'effectivement... Antoine de Bourbon restait protestant et va s'opposer fermement, évidemment, à la politique royale. En 61, alors que Hippolyte est nommé légat, hein, je viens de le voir avec vous, il va suivre le cardinal dans ses différentes pérégrinations. On va le retrouver lors du traité d'Amboise, par exemple, et il repartira avec lui à Rome. Quand il est à Rome, il a l'accord du pape, non seulement l'accord, mais il a une invitation pressante hein, du pape, qui est à cette époque Pie IV, hein, c'est le numéro, avec l'agrément d'Hippolyte, donc le voilà maintenant dans la cour vaticane. Et pendant tous ces longs séjours, il reste, si vous voulez, très proche du cardinal. Et pour revenir à Chali, donc en avril 62, alors que le cardinal est à Paris ou à Monceau, c'est-à-dire dans la cour royale, en septembre ou novembre et décembre 52, on connaît des lettres de Pierre de Muret, des lettres écrites à Giacomo Cani, et elles sont envoyées de Caroli Locus, autrement dit de Chali. Vous vous souvenez, Caroli Locus ou Caroli Loci, le lieu de Charles le Bon. Cette même année, une lettre de Morin lui parvient d'ailleurs en ce lieu. Il n'est pas trop perturbé par les événements du colloque de Poissy. Muret est quand même un catholique, un fervent catholique. Il va même d'ailleurs faire une espèce de panégyrique de la Saint-Barthélemy, 10 ans plus tard. Il n'est pas perturbé par les événements qui se déroulent en France. On panique un peu à la suite de la bataille de Dreux. On se demande quand même ce qui va se passer. Est-ce qu'on va à Paris ? Est-ce qu'on reste à Chali ? Et à Chali, c'est aussi la panique. Plusieurs religieux se disent que les choses ne s'arrangent pas très bien et ils prennent le chemin de l'exil. Autrement dit, en bon catholique, lui, il reste. Hein. Il regrette, par exemple, que lorsqu'on a repris Bourges aux protestants, on ne les a pas massacrés, ça aurait été bien, quoi. Hein, et puis, il écrit qu'il s'ennuie un peu dans ces bois de Chali. N'oubliez pas, hein, évidemment... l'espace forestier de Chaly. Oui. Il dit, il faut quand même y vivre. Mais finalement, au bout de quelques temps, il commence à s'y arranger. Il a un trait de vie fort agréable. Mmh. Et voilà une de ses lettres. Il dit, ici, Pierre Normisinus, j'en parlerai, hein, et moi, nous menons une vie charmante, donc à Chaly, hein. On chasse, on fait la guerre aux oiseaux, on pêche. Et ce qui vaut mieux, on cause. Alors, la génération de la Pléiade qui s'était formée, on en a parlé.
Oui.
Pardon, je vais quand même faire une parenthèse. Je sais bien que j'ai l'habitude d'en faire de trop nombreuses parfois. Qui était ce fameux Pierre Normisinus? Eh bien, il s'agit de Pierre Canis. C'est le nom sous lequel il est le plus connu. Et il est le proche d'Ignace de Loyola. Ah. Donc là, vous voyez, on s'en va vers, oui, évidemment, une attitude très, très dure, oui, de la part des religieux catholiques. Il fut, oui, d'ailleurs un des premiers membres de la Compagnie de Jésus, hein, oui, que, oui, les jésuites, donc initiés par Ignace de Loyola. Par contre, quand même, docteur de l'Église, il sera béatifié puis canonisé en 1925. Donc, nous avions à ce moment-là, à Chaly, en 62, un Saint-Pierre Canisius, certes, mmh, qui est fêté le 21 décembre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas l'opposition brutale ou la violence, hein, on pourrait dire, d'Ignace de Loyola. Mais il propose, lui, de faire une réforme à l'intérieur de l'Église catholique et surtout d'enseigner aux clergés, de les former. Le terme est moderne, mais l'emploi, une meilleure formation du clergé. Donc vous voyez, il est vraiment du côté des ligueurs, on va le voir par la suite, mais c'est un homme quand même assez tempéré, et on peut penser qu'il aurait pu effectivement avoir des accords véritablement avec Hippolyte d'Este.
Mais alors, il était en même temps à Chaly, en même temps que Pierre de Muret, c'est ça?
Absolument, c'est tout à fait. Marc-Antoine de Muret, oui, absolument.
Marc-Antoine.
Ils sont ensemble, oui, c'est ça. C'est grâce à la lettre, aux, oui, lettres de Marc-Antoine qu'on connaît sa présence à Chaly.
D'accord.
Voilà. Mais encore une fois, ça me permet d'évoquer cette disparité extraordinaire entre les positions.
Oui. Hein.
Personne n'est à ce moment-là complètement, enfin les ligueurs sont relativement minoritaires, les ultra-catholiques si vous préférez, de la même façon du côté protestant. Il y a beaucoup de gens au milieu qui hésitent, qui trouvent qu'il y a des choses intéressantes dans la réforme, qui n'osent pas ou qui ne veulent pas, ou qui sont convaincus qu'il faut quand même faire une réforme à l'intérieur de l'Église catholique, comme notre fameux Saint-Pierre hein, de Chaly, on pourrait l'appeler comme ça d'ailleurs. Voilà. C'est l'ambiance dans laquelle donc Hippolyte va devoir survivre un petit peu, mais surtout qui va l'obliger, cette ambiance va l'obliger à quitter la France. Et c'est là où on va le retrouver dans cette merveilleuse abbaye de Tivoli, n'est-ce pas, l'abbaye d'Este. Et c'est là qu'il va créer la Villa d'Este et les jardins hydrauliques. Hippolyte et Chaly, Hippolyte et la chapelle et les fresques.
Oui.
Et nous allons évoquer maintenant, évidemment, ce merveilleux monument qui s'est appelé la chapelle Sainte-Marie au Moyen-Âge. Ensuite, à partir de la présence d'Hippolyte, la chapelle royale. Bah oui, hein, n'oubliez pas qu'Hippolyte avait prévu d'accueillir la cour de France dès 1544. Difficile à dire, 45. Ce qu'on sait par contre, c'est qu'en 1547, c'est la mort de François Ier. Donc si vous voulez, la situation devait être assez difficile déjà pour la santé du roi de France, ou pour des raisons que nous ignorons. En tous les cas, la chose ne se fit pas. Il faudra attendre 10 ans après la mort de François Ier pour qu'on ait une visite, on peut dire officielle, du roi de France, avec celle d'Henri II, dont évidemment le sort va être tragique. C'est ce fils de François Ier qui va mourir, donc, à la suite d'un tournoi. Il prend la pointe de la lance qui vient soulever donc une partie du home et va pénétrer dans l'œil. Et 2 ou 3 jours après, dans des souffrances extraordinaires, nous dit-on, le roi se meurt, le roi est mort. Mais avant de le faire disparaître, donc, rappelons qu'en 1557, il vient à Chély et le rapport du prieur est vraiment très, très favorable à cette visite. Et surtout, c'est intéressant, Henri III nous dit que c'est un site merveilleux. Henri II, excusez-moi. Henri II nous dit que c'est un site merveilleux, lui aussi, pour la chasse. Vous voyez que la piété religieuse n'était pas forcément la première des raisons pour venir visiter Chély. La chapelle, c'est une sainte chapelle. Pour les gens qui connaissent bien notre région, disons, elle ressemble un petit peu à la chapelle de Saint-Germain-de-Flies, vous voyez, à celle de Saint-Germain-en-Laye, ou bien encore, et surtout, j'ai oublié la Saint-Germain-des-Prés également. Mm-hmm. Mais là où le rapport est plus évident, c'est la Sainte-Chapelle. Ouais. Quand vous vous rendez à la Sainte-Chapelle à Paris, vous avez une chapelle basse, mm-hmm. puis ensuite aussi une chapelle haute. Déjà, c'est assez extraordinaire mm-hmm. comme disposition. Mm-hmm. Mais il faut savoir qu'avant que l'on n'agrandisse le palais royal à Paris, eh bien, il y avait à côté de la chapelle basse une sacristie basse et au-dessus une sacristie hausse. La salle du trésor aussi. Et la salle du trésor, n'imaginez pas forcément des lingots d'or ou des pierres précieuses, c'est aussi la salle des archives. La salle où on va garder, évidemment, tous les parchemins royaux qui justifient, par exemple, rien que ça, tous les impôts que le roi doit percevoir, entre autres, tous ses propriétés. Donc, il faut absolument garder d'une façon sécure, on dirait de nos jours, l'ensemble de ces archives. Eh bien, quand on regarde la salle du trésor dans cet ensemble religieux parisien, on s'aperçoit que c'est exactement le même plan qui a servi à faire la Sainte-Chapelle de Paris. Et d'ailleurs, c'est le même roi qui va ordonner la construction de la Sainte-Chapelle, c'est Saint-Louis, bien entendu. Mmh. Donc, on est un petit peu en décalage. C'est, disons, presque une vingtaine d'années après que la chapelle de Sainte-Marie de Chély est édifiée, sur les ordres, donc, comme je le disais, de Saint-Louis. Et pour les gens qui connaissent l'histoire un petit peu de Senlis, cette chapelle ressemblait tout à fait à la Sainte-Chapelle qui existait à Senlis au XIXe, qui était celle du prieuré Saint-Maurice. Ah. Donc il reste encore une grande salle qui est souvent utilisée pour des activités culturelles. Alors cette Sainte-Chapelle, elle est destinée, et vous savez que Saint-Louis aimait beaucoup les reliques, à recueillir donc des reliques. Les reliques d'une des 11 000 vierges, elle s'appelle, il faut bien prononcer, Sainte Berge.
Oui.
Voilà, ça fait toujours sourire, alors c'est pas la peine de le faire en coin, allons-y. Et les deuxièmes reliques sont celles de Saint-Maurice. Un petit arrêt pour Saint-Maurice, parce que c'est quand même un des rares saints de l'Église catholique qui ait la peau noire. D'ailleurs, Saint-Maur.
Oui, oui.
Maurice. Et il appartenait, disait-on, à la légion thébaine, Thèbe en Égypte, mm-hmm. qui aurait adopté la religion chrétienne. Et pour cette raison, cette légion a été décimée à l'époque romaine. Même un petit peu plus tard d'ailleurs. Alors, décimé, ça veut dire un dixième. Une légion, ça fait 6000 soldats. Donc, vous voyez, elle doit faire des reliques. Hein. Non, je plaisante un peu. Mais c'est comme ça, voilà. Mm. Et ces reliques, on va les retrouver effectivement un peu partout. On a un véritable commerce, il faut bien le dire. Ce n'est pas une question de croyance ou de non-croyance. Il y a un commerce des reliques qui est évident à cette période. On verra par exemple que lorsque les religieux j'ai un exemple qui vient tout de suite à la mémoire, lorsque les religieux de Paris, de Saint-Germain-des-Prés, vous remettent un peu d'ordre à Saint-Médard de Soissons, eh bien, pour les remercier, on leur offre des reliques.
D'accord, un petit morceau d'os.
Un petit morceau de Saint-Germain, etc. Mmh. C'est vraiment un commerce tout à fait. Et puis si ça commence à manquer un peu, on coupe les reliques en deux.
Oui, c'est ça.
Voilà, c'est vraiment quelque chose qui fait partie des us et coutumes de la vie de cette période. Donc, on va construire... C'est une chapelle, oui, mais c'est d'abord un reliquaire. Si vous voulez, à la période précédente, on va dire la période de la Roman pour simplifier, les reliquaires, c'était des coffres magnifiques, souvent avec des métaux précieux, sur lesquels on avait disposé des pierres précieuses, des gemmes de plusieurs couleurs, et dans ce coffre, il y avait les fameuses reliques. Alors qu'à Chély, comme dans d'autres saintes chapelles, on peut considérer que c'est la chapelle elle-même qui est reliquaire. Et sa forme nous le rappelle, et puis surtout la présence de la lumière, les vitraux, cette lumière qui va traverser les vitraux, c'est l'éclat aussi des pierres précieuses hein, qui correspondaient aux reliquaires de la période médiévale. C'est un espace funéraire, aussi, quand même, mais c'est surtout un espace de dévotion privée pour l'abbé, pour le prince. On n'a jamais su exactement. Je vous rappelle quand même que la chapelle Sainte-Marie s'est appelée, à partir d'Hippolyte, la chapelle royale, ce qui montre bien aussi là la volonté d'Hippolyte d'offrir, évidemment, au roi un espace de dévotion tout à fait extraordinaire. Et puis ensuite, alors, à la fin du 19e, pour des raisons que je ne connais pas, elle va porter un autre nom, elle va quitter... Moi, j'aurais bien gardé chapelle royale, ça fait chic, hein. Non, on va l'appeler la chapelle de l'abbé. Sans note de bas de page, je suis incapable de dire pourquoi. Oui. Je peux simplement dire que lorsque je regarde d'autres plans d'abbaye cistercienne, je m'aperçois que c'est assez courant d'avoir des chapelles comme ça isolées. D'ailleurs, à Chély, il y avait la chapelle Sainte-Marie, mais il y avait une un peu plus loin, à mi-chemin entre Chély et Ermenonville, qui s'appelait la chapelle Sainte-Madeleine, qu'on connaît maintenant sous le nom de quartier Sainte-Madeleine, qui était à une portée d'arbalète, selon les textes du 15e. Voilà, donc c'est pas du tout étonnant d'avoir une chapelle isolée. Et si je reprends le plan de l'abbaye Clairvaux, il y a exactement au même endroit une chapelle qui s'appelle la chapelle des Comtes de Flandre. C'est assez étonnant, connaissant évidemment le nom de Chély, qui est tout à fait au même endroit que celle que nous connaissons à Chély par rapport aux autres bâtis médiévaux. Cela dit, on est quand même chez les cisterciens. Hein, et cette architecture qu'on va trouver à la chapelle n'a rien à voir avec celle de l'église. Pourtant, il y a quoi ? Il y a 25 ans qui les séparent. 25 ans, c'est une génération. Je ne veux pas dire une génération de moines, parce que ça arrive peu souvent. Mais quand même, il y a une génération qui les sépare. Et c'est une véritable révolution sur le plan architectural. Dans le bâti de l'église, on a surtout des murs de pierre, même s'il y a de superbes arcades, etc. Les fenêtres en lancette, quand même des fenêtres hautes et étroites. Là, à Chély, on a ce qu'on appelle un mur voile. Moi, je prends toujours la comparaison avec les tentes de camping que nous avions il y a quelques décennies. Voilà. Vous avez sûrement monté des tentes avec une structure métallique. Hein, donc, on était là avec nos piquets. Et puis après, on mettait la toile par au-dessus. Eh bien, le style de la Sainte-Chapelle, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a une structure, non pas métallique, mais en pierre. Mais ensuite, on peut laisser le vide ou pas. Si on veut laisser le vide, on peut le remplir avec les vitraux. Les vitraux ne sont pas porteurs, évidemment, vous l'avez bien compris. Hein? Donc, à partir de cette différence tout à fait structurelle, on comprend évidemment que cette Sainte-Chapelle soit livrée à la lumière. Et je vous propose un texte de Saint-Bernard. Hein? Encore une fois, n'oublions pas que nous sommes chez les cisterciens. Voilà ce qu'il dit à propos de la lumière. Et ce débat lumière ou pas n'a pas fini d'exister. « Comme la splendeur du soleil traverse le verre sans le briser et pénètre sa solidité et son impalpable subtilité sans le trouer, quand elle entre et sans le briser, quand elle sort, ainsi le Verbe de Dieu, lumière du Père, pénètre l'habitacle de la Vierge et sort de son sein intact. » Voilà quand même deux choses qui sont intéressantes. C'est la lumière traverse, sans altérer, et la comparaison évidemment avec l'Immaculée Conception de la Vierge, à travers cette lumière de Dieu qui pénètre le sein de Marie. Je crois qu'il ne faut pas oublier ça. Et donc pour Bernard, ce qui est important, c'est la lumière. Et on va le voir, il va s'opposer avec Suger, l'abbé de Saint-Denis. Est-ce que l'objet lui-même est lumineux ou est-ce que c'est la lumière qui le rend lumineux ? Et là, c'est un point extrêmement important. On en parlera quand on parlera des pigments un peu plus tard à la Renaissance, d'ailleurs.
Oui.
Il y a un autre texte que j'ai retenu également à propos de cette petite chapelle. Un texte qui date du milieu. L'auteur, 1350, 1418, de mémoire. Il s'agit de Jean de Montreuil. C'est un intellectuel, on dirait de nos jours. Lui, un latiniste, lui aussi. et qui va disparaître à la fin dans les massacres parisiens des guerres de Cent Ans. Il a été notaire et secrétaire du roi Charles VI, dit le fou. Et il nous fait une description du monastère de Chaly, près de Senlis, dit-il, tout à fait extraordinaire. Il nous dit, ce qui rend la chose plus exaltante, il parlait évidemment du domaine de Chaly, c'est une petite chapelle de Sainte-Marie, qui est proche de cette habitation, c'est-à-dire de l'endroit où habitaient moines. Elle a la réputation d'être à peine moins belle que celle de Saint-Germain-des-Prés, hein, je l'évoquais tout à l'heure. C'est que par l'intervention de la Sainte Vierge auprès de son fils, des quantités de miracles ont été accomplis, et qu'il ne faut pas taire ce qu'une statue de cette même Vierge se trouve dans cette chapelle, y subsiste. Elle, dont on reconnaît qu'elle a été sculptée avec tant de majesté et tant d'art, qu'elle n'est mise au-dessous d'aucune de celles qui se trouvent dans son royaume, ou qui pourraient être trouvées ailleurs, au point qu'on dirait qu'elle est l'œuvre de Lisippe, de Praxitèle ou d'Appel. Et je termine en disant, vous pouvez la retrouver, cette fameuse sculpture de la Vierge. Elle est actuellement conservée dans un bas-côté de l'église de Baron.
C'était « Si Chaly m'était compté », avec Jean-Marc Vasseur, attaché culturel et pédagogique de l'Institut de France à Chaly.